Magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Que savons-nous des Pays-Bas et des Néerlandais si proches géographiquement et si éloignés culturellement? Au-delà des clichés, les tulipes, l'autre pays du fromage, les moulins à vent et le cannabis en vente libre, les Néerlandais ont construit une société prospère et tolérante. Tolérante en tout cas tant qu'elle ne menace pas l'ordre social. Du consensus et du compromis, les Néerlandais ont fait un art de gouverner et de vivre en société. Cela s'appelle le polder model. Mais quelles sont les limites du polder modèle à l'heure de la mondialisation? Grands commerçants devant l'éternel, les Néerlandais sont majoritairement europhiles, surtout lorsqu'il s'agit d'approfondir le marché unique, un peu moins à l'évocation d'une union monétaire plus contraignante. Carrefour de l'Europe, une heure à la découverte des Pays-Bas et des Néerlandais. Nous avons posé nos micros à La Haye, la capitale politique des Pays-Bas, dans un lieu magique et emblématique, le Mauritius. Bonjour, Ken Brakenhoff.
Bonjour, Daniel.
Alors, vous êtes le directeur du pôle presse du Mauritius. Alors, j'ai opté pour une prononciation à la française, essentiellement parce que j'ai beaucoup de mal à le prononcer à la néerlandaise. Mais si on le prononçait à la néerlandaise, on le dirait comment?
Ça sonne comme Mauritshuis.
C'est beaucoup plus difficile. Et Mauritius.
En effet, c'est la maison de Mauritius. Donc ça fait Mauritshuis, c'est le mot néerlandais pour maison.
Alors qui est ce Maurice qui a cette si belle maison, qui abrite un musée exceptionnel?
Oui, c'était Maurice qui était un comte de Nassau-Siegen, qui a construit cette très très belle maison entre 1633 et 1644 pour en faire une résidence personnelle à lui. Et finalement, c'est devenu musée en 1822 avec des Rembrandt, des tableaux de Vermeer.
Alors, c'est pas forcément le plus grand musée des Pays-Bas, mais c'est un des plus beaux. Peut-être que vous allez me dire que c'est le plus beau.
Ouais, c'est le plus beau des Pays-Bas. Mais c'est une collection assez petite. Ça compte 800 des tableaux.
Mais donc, quelle collection, quel tableau!
Avec une qualité énorme et une popularité aussi superbe.
Ouais. Alors, on y voit des Rembrandts célèbres. Alors, je pense par exemple à la leçon d'anatomie du docteur Nicolas Stubb. Encore une fois, je le prononce à la française. Évidemment, un tableau que j'avais vu, moi, dans des livres d'histoire, dans des livres d'art. Et puis, la très fameuse Joconde du Nord, la jeune fille à la perle.
C'est une des trois tableaux de Vermeer que nous avons ici au musée. C'est vraiment le poster girl, le cover girl du Mauritius.
Ouais. Alors, c'est un peu la Joconde, c'est ça, hein, c'est du Louvre, c'est un peu l'équivalent.
Oui, c'est l'équivalent, c'est la Joconde du Nord.
Alors, La Haye, évidemment, un peu moins connue qu'Amsterdam. Il y a trop de touristes à Amsterdam?
Oui, en ce moment, oui.
Et donc, par contre, ils sont les bienvenus à La Haye?
Allez-y à La Haye, et soyez de bienvenus.
Alors La Haye, c'est une ville évidemment plus petite qu'Amsterdam, quoique environ 500 000 habitants, très verte, très proche de la mer.
Oui, et c'est la résidence de notre roi et de notre reine, et aussi la Cour de justice d'Europe. Et donc, c'est vraiment la ville qui gère, comme vous voulez, les Pays-Bas. Au niveau du Parlement, au niveau du Sénat.
Alors, je vous présente les autres invités qui nous ont rejoints ici au Mauritshuis. Je ne sais pas si je suis en train de progresser en néerlandais. Bonjour Margot De Graaf.
Bonjour Daniel.
Vous êtes critique littéraire au Handelsblad. On dit NRC Handelsblad. Pourquoi on dit NRC?
Mais c'est une fusion. Il y a assez longtemps, il y a eu deux journaux, le NRC, un journal de Rotterdam, et le Handelsblad, qui était plutôt un journal d'Amsterdam, donc il y a longtemps.
Et il y a une fusion. Alors, vous êtes critique littéraire, et par ailleurs, vous avez écrit de nombreux livres, et votre dernier livre, je vais le dire en français, bien qu'il est publié en néerlandais, oui. Lire en France.
Lezen in Frankrijk, un tour littéraire de France. De France littéraire.
Alors, vous avez fait le tour de France, des librairies, des auteurs?
Non, il y a 20 chapitres sur 20 auteurs vivants, francophones, et j'ai lié des endroits en France à leur œuvre. Donc, c'est un portrait de la littérature française d'aujourd'hui et aussi un livre de voyage en France. C'est les deux.
Ariane Kortebeck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien Volkskrant, où vous vous occupez essentiellement de politique. Évidemment, on va dire un petit mot sur la politique néerlandaise, évidemment sur l'appartenance à l'Europe à un moment ou un autre dans l'émission. Wietse Stam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant en histoire à l'université de Leiden. Leiden, c'est tout à côté de là.
Exactement, c'est 10 minutes par train.
Alors, il faut dire que tout est proche. Hein. Amsterdam n'est pas loin, Rotterdam, c'est à côté, Leiden, c'est... tout est extrêmement proche. Et cette conurbation, elle a un nom bien particulier.
Oui,
le Randstad, oui. C'est ça, le Randstad. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce Randstad?
Randstad, c'est un peu le cœur, c'est la grande ville des Pays-Bas, quoi. C'est là où se trouvent toutes les villes, qui sont effectivement, comme vous dites, à 10 minutes, à 30 minutes, mais pas plus que ça. À part ça, il y a Groningue et Maastricht dans le nord et dans le sud.
Ça, c'est beaucoup
mais
plus
là,
loin.
Là, il faut quand même prendre le train, il faut compter une heure et demie même.
Alors qu'on va à Amsterdam en une demi-heure, à Leiden en un quart d'heure, et à Rotterdam à peu près aussi en une demi-heure. Et puis Céline Lostis. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous êtes française, vous n'êtes pas néerlandaise, mais vous connaissez très très bien les Pays-Bas, vous y avez vécu, et vous avez écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle « Les Néerlandais » qui a été publié aux éditions Henri Lugier. Il vient de sortir et je m'en suis beaucoup inspiré pour préparer cette émission. Alors Céline, justement, si je vous demande de me parler des Pays-Bas et des Néerlandais, au-delà des clichés que j'ai évoqués dans l'introduction, qu'est-ce que vous avez envie de me dire, de nous dire en premier? Les Pays-Bas, les Néerlandais, c'est...
C'est très intéressant, surtout pour des Français en fait. C'est un peuple qui est très proche de la France, qui est assez méconnu des Français et qui en fait est très intéressant parce que tout le système social, sociétal, de pensée est radicalement différent du nôtre. Donc c'est un peuple qui est vraiment très intéressant de regarder.
Vous avez été surprise quand vous avez découvert les Néerlandais, quand vous êtes arrivée ici ?
Alors, une partie de ma famille est d'origine néerlandaise, donc je les connaissais déjà un petit peu, mais pour étudier un peu plus en détail, leur modèle social, oui, là, c'est très, très intéressant. Surtout quand on est français.
Alors, évidemment, on parlait de ce modèle social néerlandais. Dans un premier temps, j'ai envie de vous demander aux uns et aux autres, qu'est-ce qui fait l'identité néerlandophone, Margot Di Graaf?
Oui, mais c'est une excellente question. C'est d'abord notre langue, j'imagine, parce que le néerlandais, vous savez, il y a 23 millions de néerlandais, de gens qui parlent le néerlandais.
C'est quand même... Dont 17 millions aux Pays-Bas.
Oui, donc il y en a qui parlent le néerlandais en Belgique et un peu en Afrique du Sud, même si c'est pas vraiment le néerlandais. Comparé aux Français, donc il y a plus de 400 millions de gens, je pense, qui parlent français. Donc là, déjà, il y a une différence. Ce qui nous peut-être explique d'une certaine manière la méconnaissance des Pays-Bas, c'est aussi le nom de notre pays. Parce que le nom de notre pays, c'est les Pays-Bas. Et il y a des Français qui disent souvent... Hollande, la Hollande.
Mais oui, on confond tout le temps les Pays-Bas et la Hollande.
Mais c'est ça. Et on dit Hollande, on parle hollandais. Non, on ne parle pas le hollandais, on parle le néerlandais quand même. Et puis la deuxième question est toujours, mais est-ce que la langue flamande existe aussi? Est-ce que c'est une langue à part? Mais non, les Flamands en Belgique qui parlent notre langue, ils parlent le néerlandais. Donc d'où une certaine confusion, je pense, de temps en temps,
alors,
au sujet de notre pays.
Une part de l'identité, c'est la langue. Ariane Kortebeck, vous en voyez une autre?
Je crois qu'il y a deux particularités qui diffèrent les deux pays. Donc d'abord, les Pays-Bas, c'est un pays des polders.
Alors donc, il faut un mot sur les polders. Tout le monde ne sait pas ce que c'est que les polders.
C'est le tiroir sous la mer qu'on a dû construire ensemble. Et ça, c'est très important. Donc on a dû coopérer depuis le début. On a dû travailler ensemble. Et c'est de cette source que vient l'esprit de coopération et de compromis, je crois.
Il faut expliquer qu'une part, environ entre 25% et 30% du territoire néerlandais est sous le niveau de la mer.
Ce vous avez parlé du Randstad. Le Randstad, c'est la partie du pays sous la mer. Donc, ça veut dire que la partie la plus prospère est sous la mer. Donc, il faut se protéger.
Protéger par des digues.
Pas des digues, oui, c'est ça.
Vite, Stam, est-ce que ça veut dire que l'eau est un élément important de l'identité néerlandaise? C'est vrai qu'alors, il y a des canaux partout, on voit de l'eau partout.
Oui, absolument. Je pense
C'est très bien illustré par le fait qu'on peut aussi se déplacer sur l'eau dans tous les Pays-Bas. On peut prendre le bateau ici, à La Haye, et arriver à la Frise, au nord.
C'est tout au nord.
Tout est connecté, comme autrefois. Au siècle d'or, les gens prenaient le bateau pour se déplacer.
Et donc, les Néerlandais ont, dans leur identité, toujours, ils sont nés sur l'eau ou ils ont un rapport particulier avec l'eau?
Oui, et ils ont toujours aussi combattu contre l'eau.
Ils travaillent ensemble pour construire des digues, pour donc c'était l'esprit d'être ensemble, de battre ensemble contre l'eau qui était très très important et qui a c'était vraiment une réfusion totale du pouvoir central. C'était un travail ensemble et c'est pas une roi soit une Stadthouder qui a géré les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas, c'est pas le Pays-Bas.
Est-ce que ça veut dire que avec ce que vous venez de dire, Corinne Braconoff, qu'un élément de l'identité néerlandaise, c'est que les Néerlandais sont entreprenants et ils sont collectivement entreprenants.
Oui, c'est tout à fait ça. Et ça se reflète aussi dans l'art hollandaise, l'art du XVIIe siècle, l'art qui est ici au Mauritius, qui a pu être peint grâce à cet marché énorme. Et la coopération ensemble, dans un atelier, par exemple.
Alors, une autre caractéristique des Pays-Bas, c'est qu'ils sont prospères, c'est l'Inlostis.
Exactement. Exactement, c'est un pays qui est quand même très riche. Depuis très longtemps, en fait, il y a une certaine prospérité.
Depuis le siècle d'or qui est, Conrad Braconoff, 16e, 17e, hein, le siècle d'or des Pays-Bas. 17e. Et ça ne s'est pas démenti depuis.
Complètement. Alors, c'est un pays qui, effectivement, est très discret, mais qui pourtant a un rôle très, très important sur la scène internationale, et notamment au niveau économique. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont néerlandaises, on l'oublie très souvent. Mais oui, les Pays-Bas.
On peut manger néerlandais sans le savoir. On peut remplir le réservoir de sa voiture avec une essence néerlandaise sans le savoir. On peut regarder sa télévision sur un poste de télévision néerlandais sans le savoir. Une économie prospère et très commerçante.
C'est ça, très commerçante. Et ce qui est assez caractéristique des Pays-Bas, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas à vendre la marque Pays-Bas. Donc en fait, les produits qu'ils vendent, ce sont des produits mondialisés. Alors que nous, en France, on a plutôt tendance à vendre la marque France. Les Pays-Bas, eux, vendent des produits qui sont très standardisés et qui, du coup, s'adaptent à toutes les cultures du monde.
Alors, est-ce que vous diriez, Ariane Cordovet, que les Pays-Bas sont un pays moins inégalitaire que dans le reste du monde? Restons dans le reste de l'Europe.
Oui. Si on fait la comparaison avec la France ou l'Angleterre, oui. Je crois que la différence entre les plus riches et les plus pauvres et moins que dans les grands pays de l'Europe. Donc c'est un pays plus égalitaire. En même temps, en politique, l'inégalité, à ce moment, c'est un sujet qui joue énormément.
C'est-à-dire
qu'on est en train de voir que les anciennes divisions qu'on a vues ne jouent plus, mais qu'il y a une différence nouvelle qui est en train de se développer entre ceux qui ont des réseaux importants et qui peuvent se développer, et les autres qui ont une chance assez limitée à se développer. Et à ce moment, dans la politique nationale, c'est un sujet qui devient de plus en plus important.
Alors à ce propos, je fais une petite balade dans la ville avec José Meuwenhoord et nous sommes baladés très près d'ici, dans un quartier très central de La Haye, tout près du Mauritius, le quartier de la vie politique.
Ici c'est le Binnenhof, le bâtiment du gouvernement. Après on a le plein et autour du plein on trouve des cafés et restaurants et on peut rencontrer très souvent des hommes politiques.
Alors là on est juste devant une petite tour, on peut passer devant sans même faire très attention. Elle est à la fois très mignonne mais très petite. C'est une tour bien particulière, elle abrite un bureau bien particulier.
Oui, c'est vrai. C'est le bureau du Premier ministre, mais on dit ministre-président, Mark Rutte.
Ce qui caractérise le personnel politique ici aux Pays-Bas, c'est la proximité.
Oui, ils sont proches, mais seulement pour les regarder. Si on a une question qui est vraiment politique, on ne peut pas dire « Hey, allô, je voudrais bien savoir ». Non, c'est pas possible. Mark Rutte, il fait le vélo toujours dans la ville et on peut le rencontrer, mais pas pour avoir un rendez-vous. Il y a un trou énorme entre les hommes politiques et les gens dans la rue.
Alors, il paraît qu'il a une petite histoire. En tout cas, ça a été une vidéo qui a été très largement diffusée sur les réseaux sociaux où le Premier ministre, donc Mark Rutte, prend le café et qu'est-ce qui se passe ?
Il a fait tomber le café et après il a pris une serpillière pour nettoyer le sol. Et tout le monde a ri parce que le ministre-président ne doit pas nettoyer le sol. Mais dans tous les journaux, on a vu la photo en tout cas.
Ah, une corde avec, je vous ai vu hocher la tête.
Non, c'est pas complètement vrai ce qu'elle disait. Parce que pour les gens politiques, c'est un grand souci. Est-ce qu'il y a une grande séparation des gens ou non? Ils veulent pas, donc ils veulent être proches des gens. Donc ils se baladent. Rutte ne prend pas beaucoup le vélo, il se balade dans la ville. Donc il rencontre des gens et c'est une sorte de parcours absurde parce que tout le monde veut prendre des selfies avec lui. Il est toujours d'accord. Des enfants, des classes d'école, des choses comme ça. Si on se balade ici, sur le Binnenhof, on peut lui voir très souvent. Et même s'il a le temps, et c'est un homme assez donc décontracté, donc s'il a le temps, il veut discuter avec n'importe qui. Et ça, c'est... Moi, j'avais l'habitude de suivre l'actualité politique en France. Et c'est vraiment une des grandes différences entre les deux pays. Parce que les gens politiques en France sont... Sauf dans leur...
Dans leur circonscription.
Circonscription, ils ne sont pas facilement abordables.
Qu'est-ce que ça veut dire, Céline Lostis, de cette proximité du personnel politique avec les citoyens? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une grande décontraction, qu'on est dans un grand moment de liberté, que chacun est un peu pareil? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est vrai qu'en fait, aux Pays-Bas, je pense que les apparats du pouvoir ne sont pas autant acceptés qu'en France. En fait, il faut avoir une certaine simplicité. Alors, ça vient certainement de la culture protestante du pays, qui même s'il n'est pas à majorité protestante, en fait, le protestantisme a quand même beaucoup influencé la culture du pays. On dit des fois que même les catholiques aux Pays-Bas sont protestants. Et je pense que cette simplicité vient de là, en fait. Et donc, effectivement, un homme politique qui est trop coupé du peuple ou qui montre trop sa différence ou sa richesse, c'est assez mal perçu, en fait. Donc, aux Pays-Bas, il faut être simple et jouer les choses assez simplement. Donc... Et juste pour revenir un peu sur la question des inégalités, certes, il y a moins d'inégalités, mais surtout, il y a moins de marqueurs de l'inégalité, en fait. Donc, même les personnes les plus riches, finalement, ont moins tendance à le montrer.
On n'a pas la richesse ostentatoire.
Pas du tout.
Ouais. Mais par contre, est-ce que c'est un devoir, là, parce que vous avez évoqué le calvinisme, est-ce que c'est un devoir de réussir aux Pays-Bas? Est-ce qu'on se doit de réussir? Vite Stam qui a rigolé, ben voilà, à vous de répondre.
Pas plus qu'en France, je pense. Ouais. Je pense qu'il y a moins de pression sur les jeunes aux Pays-Bas de réussite. On n'a pas ce système qu'on a en France avec les concours, par exemple. Donc c'est assez ouvert, l'enseignement, par exemple, qui donne... beaucoup moins de pression, je pense.
Une vraie différence entre nos deux pays, c'est qu'en France, le travail, c'est un droit, et aux Pays-Bas, c'est un devoir. Parce que, comme Céline a dit, on a les racines calvinistes qui vous disent, mais il faut quand même bosser. Et je crois qu'il y a quand même une différence entre les deux pays sur ce sujet.
Margot Disgrave.
Pas peut-être trop excellé, c'est ça le problème. Hein.
Il faut pas le montrer.
On dit quand même, tu n'es pas mieux que moi. Hein. Ouais. Même si tu sais faire des choses très 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 bien, fais attention, ne te mets pas en avant. Et ça aussi, c'est typiquement protestant d'une certaine manière. Je me souviens très bien à l'époque de mes parents, ils m'ont raconté, à une certaine époque, il fallait pas être trop bien, et si quelqu'un se vantait d'être vraiment bien en quelque chose, bien faire le vélo, faire le bateau, quoi que ce soit, on lui disait, mais ça pue, Donc, en d'autres mots, faut pas trop exceller non plus.
De la difficulté d'être néerlandais. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. Retour à La Haye aux Pays-Bas dans 3 minutes. À tout de suite.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Kruzemion tut Europa.
Rescrucia europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à La Haye, la capitale politique des Pays-Bas, au Mauritius, le musée de l'âge d'or des Pays-Bas qui abrite les plus beaux trésors des peintres flamands des 16e et 17e siècles, Rembrandt, Rubens, Vermeer et quelques autres. Et nous sommes toujours à la découverte des Néerlandais, à la fois si proches géographiquement et si éloignés culturellement. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints autour des micros de Carrefour de l'Europe. Keun Brakenhoff, il est directeur du pôle presse du Mauritius. Margot Digraf, elle est critique littéraire et auteur. Son dernier livre, Lesson in Frankreich, je ne l'ai pas bien dit, Lire en France en tout cas, c'est un livre à la destination évidemment des Néerlandais. Ariane Korteweg, il est journaliste politique au quotidien Volkskrant. Wietz Stam, il est doctorant en histoire à l'université de Leiden. Et Céline Lostis, elle est auteur des Néerlandais qui vient de paraître aux éditions Henri Dougy. Alors, une des grandes caractéristiques des Néerlandais, en tout cas c'est ce qu'on retient, on dit, quel peuple tolérant ces Néerlandais. Que faut-il en penser, Céline Lostis? Alors, tolérant parce que, évidemment, l'avortement a été légalisé d'abord aux Pays-Bas avant d'être légalisé partout. Même chose pour le mariage pour tous, même chose pour l'euthanasie, l'assistance, le droit de mourir dignement. À chaque fois, sur les thèmes sociétaux, les Néerlandais sont très en avance, notamment sur les autres Européens. Une grande tolérance, ça viendrait à l'idée de personne de faire une remarque lorsque deux garçons se tiennent par la main ou deux filles se tiennent par la main. Qu'en est-il de cette tolérance qui est effectivement une image que les Pays-Bas véhiculent et qu'on a presque tous en tête?
Alors, c'est une image qu'ils véhiculent qui est juste, effectivement, puisque vous l'avez rappelé, il y a quand même eu beaucoup de progrès sociétaux qui ont commencé par les Pays-Bas. Mais cette tolérance, elle a quand même ses limites, finalement, on s'en aperçoit quand on s'y intéresse un petit peu. En fait, on a le droit de faire beaucoup de choses aux Pays-Bas, enfin, en tout cas, la loi l'autorise, mais c'est pas pour ça que notre communauté ou que le milieu social duquel on vient va forcément nous autoriser à faire ce genre de choses, que ce soit l'homosexualité, la prostitution, l'euthanasie, etc. Je me souviens d'un ami une fois qui m'avait résumé ça en une phrase en me disant aux Pays-Bas dat kan, ma dat mag niet, c'est-à-dire que on a le droit légalement de faire quelque chose, mais c'est pas pour ça qu'on peut faire quelque chose. Et je pense qu'en fait, aux Pays-Bas, le contrôle de la communauté remplace finalement le contrôle qui est plutôt légal ou étatique en France.
Alors, Margot Digraf, comment se gère ce contrôle de la société que vient de suggérer Céline Lostis?
Oui, en écoutant Céline, j'ai pensé à la littérature, parce que pour moi, tout passe par la littérature. Et puis, il y a deux tendances, je dirais, en littérature néerlandaise. C'est d'abord l'intime. On a toujours l'impression d'entrer rapidement dans l'intime des gens. Hein, les rideaux sont presque toujours ouverts chez nous. Si on se promène à Amsterdam, on regarde directement dedans.
Et alors effectivement, ouais. Les fenêtres sont comme une vitrine. Ouais. Il n'y a pas de volets dans les maisons du Parlement.
On ne les ferme pas.
On ne les ferme pas. Ouais. Les rideaux sont souvent tirés. Ouais. Il y a une invitation à regarder ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ces fenêtres ouvertes, ces fameuses fenêtres néerlandaises?
Mais ces fenêtres ouvertes sur le monde, c'est clair d'une certaine manière. Et d'autre part, on ne voit pas tout. Hein, c'est ça, on cache quand même des choses.
Est-ce que ça veut dire que les Néerlandais n'ont rien à cacher que Brakenhoff?
Je ne sais pas. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Céline. Mais c'est plutôt vivre et laisser vivre ici aux Pays-Bas. Donc il faut faire votre propre choix, votre propre décision à quoi faire avec son vie.
Sam Witteux.
Peut-être pas la tolérance n'est pas le mot, mais peut-être l'indifférence. C'est peut-être mieux de l'appeler comme ça.
Alors, plus indifférent qu'à tolérant.
Mercantile. Donc, ça veut dire qu'on est ouvert vers le monde parce qu'on veut en profiter. Donc, dans tous les contacts, on se demande qu'est-ce que ça donne pour moi. Et notre tolérance, n'est pas une tolérance qui vient d'origine religieuse ou quelque chose comme ça. C'est pas une conviction très forte, intime. C'est un profit qu'on cherche. Donc, on est ouvert à tout le monde parce que on peut en profiter, parce que c'est comme ça qu'on a gagné son pain depuis toujours, en être ouvert. Donc, je suis d'accord avec le mot indifférence, malheureusement.
Céline, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, non, complètement, effectivement. C'est vrai que entre tolérance et indifférence aux Pays-Bas, la différence est très, très ténue, en fait. Et effectivement, c'est pas parce qu'on tolère un comportement qu'on l'accepte forcément.
Bon,
mais
c'est qui,
chacun fait ce qu'il veut.
Excusez. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment, on est en train de s'en rendre compte sur une sorte de niveau national, parce qu'il y a des débats sur notre passé, sur l'esclavage et des choses comme ça. On peut en parler ici, au Mauritshuis aussi, c'est un lieu actuel. Et on est en train de s'en rendre compte. Peut-être on n'est pas forcément si tolérant, mais il faut en parler à une autre façon.
Mais en même temps, les Pays-Bas sont traditionnellement une terre d'accueil, historiquement, une terre d'accueil des minorités. Les minorités religieuses, par exemple,
les
huguenots, voilà, pour rester dans une approche franco-néerlandaise, ont trouvé refuge aux Pays-Bas. Descartes.
Oui, il y en a beaucoup, des philosophes français qui ont fui la France à une certaine époque pour s'installer aux Pays-Bas. Effectivement, c'est ce qui fait notre réputation. Même s'il y a quelque chose entre donc la tolérance, comme vous dites, Céline, et l'indifférence, comme vous dites, il y a le débat entre la discussion. Ça aussi, il y a une étape entre les deux qui est en train de se créer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de débats de nos jours sur l'euthanasie, sur la pédophilie, sur l'homosexualité qu'autrefois, et c'est une étape à franchir là maintenant aux Pays-Bas.
Alors les Pays-Bas terre d'accueil font qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'émigrés aux Pays-Bas, 17 millions de Néerlandais, environ 3 millions et demi d'immigrés, d'étrangers, hein, je ne sais pas quel est le mot juste, dont 2 millions non occidentaux. Comment ça se passe ? Par exemple, il y a des pays qui ont une volonté d'intégration, c'est-à-dire en France, on aimerait bien que les immigrés ressemblent à des Français. C'est pas forcément le cas, Céline Lostis ou Arend Kortoweg aux Pays-Bas.
Il y a une différence assez profonde entre, par exemple, les discours de Madame Merkel là-dessous et de Mark Rutte, notre Premier ministre. Merkel dit c'est notre devoir. Et c'est dans notre racine et dans notre tradition européenne d'être un pays d'accueil. Et Rutte dit, est-ce qu'on peut en profiter ? Qu'est-ce que ça va nous donner ? Et ça, c'est vraiment la différence entre les deux attitudes et les deux discours politiques sur ce sujet.
Il a aussi une attitude plutôt pragmatique, je dirais. Il veut résoudre le problème. C'est pas forcément qu'il veut en profiter, peut-être. C'est juste qu'il. Mais les Néerlandais, tu dois être d'accord avec moi, Céline. On est un pays, un peuple assez pragmatique. On veut résoudre des problèmes et trouver des moyens assez directs pour en parler, pour les résoudre. Effectivement, c'est pas l'attitude de Merkel qui, jusqu'à présent, a ouvert les frontières et s'est dit bon, wir schaffen das.
Oui, mais vous y arrivez. Je me demande qu'est-ce que ça va me donner sur le niveau européen.
Oui.
Comment tenir la place que j'y tiens en Europe.
Alors, ce pragmatisme, effectivement, qui est un mot clé pour définir les Néerlandais, c'est une qualité ou un défaut ? Qui veut rebondir ? Céline qui lève les yeux au ciel. Bah, vous allez répondre. Vous tentez de le faire.
Alors, c'est vraiment une qualité sur certains sujets. On en parlait tout à l'heure, tous les sujets sociétaux, que ce soit l'euthanasie, que ce soit l'homosexualité, que ce soit tous ces nouveaux progrès sociétaux, ça a été permis par du pragmatisme, c'est-à-dire qu'une réalité existe, donc on va faire une loi pour, et donc on va étudier le sujet de façon totalement dépassionnée, en fait, pour arriver à une législation qui soit adaptée. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement agréable, je pense, quand on vit aux Pays-Bas. Le revers peut-être de la médaille, c'est que on cherche toujours le consensus ou le pragmatisme, et parfois je me dis j'aimerais bien qu'aux Pays-Bas il y ait un peu plus de grands idéaux qui amènent à des révolutions, à des progrès sociaux qui soient peut-être plus importants que ce consensus qui est très confortable.
C'est un mythe.
et du débat. Je pense qu'une grande différence entre la France et les Pays-Bas, qu'il y a un débat politique et pas très... disons violent, c'est très, on évite la confrontation aux Pays-Bas, et ça, comme ça, on manque aussi peut-être des débats parfois de profondeur.
Que vous vouliez rajouter quelque chose.
D'accord. C'est toujours à la recherche du consensus, de d'être d'accord avec les autres pour faire la prochaine mouvement.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à l'AEE, la capitale politique des Pays-Bas, avec Koen Brakenhoff, directeur du pôle presse du Mauritius, qui nous héberge, qui nous accueille. Margot Digraf, critique littéraire et auteur, son dernier livre, Lire en France, mais c'est écrit en néerlandais, c'est à destination d'un public néerlandophone. Ariane Korteweg, il est journaliste au quotidien Volkskrant. Vitte Stam, il est doctorant en histoire à l'université de Leiden. Et Céline Lostis, elle est auteur des Néerlandais aux ateliers Henri Dougier. Mine de rien, au fil du temps, on a envoyé quelques mots assez clés. Le calvinisme, le pragmatisme, le consensus, ça définit assez bien les Néerlandais. Et tout ça mis bout à bout, est-ce que ça ne nous donne pas ce qu'on appelle ce fameux polder modèle? Qu'est-ce que le polder modèle que les Néerlandais n'ont d'ailleurs pas tant que ça exporté? Qui veut rebondir sur le polder modèle? Ariane Korteweg?
J'ai souvent fait des comparaisons entre la vie politique en France et aux Pays-Bas. Je suis de retour aux Pays-Bas depuis 5 ans, et ce qui m'a surpris, d'abord, que les députés néerlandais sont jeunes, si on les compare avec l'Assemblée nationale. Ils sont
quoi,
féminins.
Quoi qu'il y ait eu un rajeunissement en France les dernières élections.
Ils sont féminins, donc on est à 40% de femmes, je crois. Et les débats sont beaucoup moins féroces qu'en France. Et en même temps, on a parlé de Rutte qu'on peut voir ici. Ce qu'on peut voir ici aussi, si on se marche sur le Binnenhof, le territoire politique, on peut voir balader ensemble des gens d'extrême gauche et d'extrême droite qui s'en discutent sur Het Plein, sur la place publique ici. Donc la politique, à une façon, est une façade. On se dispute, et derrière les rideaux, on est tous d'accord, on peut dire. Ça, c'est l'aspect polder qui définit la politique néerlandaise, et par exemple, qu'on ne trouve pas comme ça en France. On ne voit jamais Marine Le Pen quitter l'Assemblée nationale ensemble avec un socialiste.
C'est peu imaginable, en effet. Effectivement, voilà, bras dessus, c'est difficilement imaginable. Hein. Ouais. Mais la conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a pas, ce que disait Stamitus, c'est qu'il n'y a pas de vrai débat de fond, car on privilégie toujours la recherche du consensus.
Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on si on ferme la porte qui donne sur la rue, on laisse toujours la porte arrière ouverte. Donc on peut toujours entrer par la porte arrière ou par la fenêtre.
Il y a toujours une issue de secours.
Toujours une issue de secours.
Comment devient-on néerlandais? Il faut pour ça au moins un accessoire que tous les Néerlandais ont. Et José Neuveneuve, qu'on a entendu dans la première partie de l'émission, elle est venue avec ce fameux accessoire que tous les Néerlandais possèdent.
C'est un vélo. Si je ne vais pas à pied, je prends le vélo. Pour aller un peu plus loin.
Tous les Néerlandais ont un vélo.
Je crois presque tout.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les Néerlandais savent faire du vélo avant de savoir marcher?
Non, ça, c'est pas vrai. Ils savent déjà 3 ans à marcher et maintenant, ils apprennent à faire le vélo. Comme nager, il faut nager et faire le vélo. C'est nécessaire.
Un Néerlandais qui n'a pas de vélo, qui ne sait pas faire de vélo, qui ne sait pas nager, c'est pas un Néerlandais.
Je crois, ça colle à la culture. Mais quand je pense à nager, c'est aussi pour la sécurité. On a beaucoup de l'eau ici et on peut se noyer très facilement.
Alors autour de la table, qui est venu en vélo? Levez le doigt. Ah, les deux Français qui assistent à l'émission qu'on n'a pas entendue, car les deux Français se sont incroyablement néerlandisés. Les cinq Néerlandais autour de la table sont venus, je ne sais pas comment, peut-être en transport en commun, voire en voiture, et seuls les deux Français qui assistent à l'émission sont venus en vélo, c'est-à-dire que finalement, on arrive à se néerlandiser, même lorsqu'on est Français. C'est la polarisation, le polder model, enfin vraiment, donc un modèle qui finalement s'exporte. Comment ça se passe l'Europe, Ariane Korteweg, avec d'un point de vue néerlandais, évidemment les Pays-Bas sont un pays fondateur de l'Union européenne, évidemment un pays qui a largement profité de l'Union européenne, puisque le pays traditionnellement est excédentaire, a même des excédents avec l'Allemagne, ce qui est quand même très très fort lorsqu'on connaît le déficit français par rapport à l'Allemagne. Comment voit-on aujourd'hui l'Europe, à un moment où l'Europe devient un peu plus compliquée, où elle n'est pas simplement un marché unique, et où soit l'Europe connaît de grandes difficultés et risque un effondrement, ou au contraire, eh bien, il va falloir renforcer politiquement cette Europe, notamment au niveau de l'union monétaire, ce qui évidemment semble-t-il pose un problème au fameux président, au premier ministre Mark Rutte.
Depuis un an, on a un nouveau gouvernement et on a changé sa veste ici, on peut dire, sur le plan européen. Donc on était assez critique. Et depuis le nouveau gouvernement, on se rapproche plus. Et on s'en doute parce que on était plutôt entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'Allemagne, pour nous, c'est le plus important parce que tout notre export part vers l'Allemagne, on peut dire. On est le port de l'Allemagne.
Rotterdam, c'est le port de l'Allemagne.
Voilà, c'est ça. Donc c'est notre voisin le plus important. Le fait que l'Angleterre va quitter l'Union européenne change la donne pour nous.
Est-ce que ça veut dire que les Pays-Bas se retrouvent un peu orphelins,
isolés? Oui. Avec la France, la coopération est toujours compliquée, je crois, qu'on peut dire. Parce que on a parlé de ça au début de l'émission, on ne s'en comprend pas trop. Et ça veut dire que la nouvelle...
Avec l'idée, d'un point de vue européen, pour parler simplement, les Français et les Néerlandais se comprennent pas trop au niveau européen, est-ce que ça veut dire que les Français ont tendance à être un peu dépensiers, alors que les Néerlandais ont tendance à être un peu plus épargnants?
Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En principe, c'est ça. Oui. Donc, on se méfie de l'axe Berlin-Paris qui est en train de se développer à ce moment. Et on se doute du rôle que joue Paris à ce moment, qui est en train de devenir plus important et plus agile que Berlin, parce que Merkel a des soucis à l'intérieur. Donc, on est en train de former une sorte de d'union entre d'autres pays.
Plus au nord, les Suédois, les Danois,
de taille moyenne, pour développer sur le plan financier, pour développer une politique plus stricte. C'est ça la position à ce moment.
Stan, moi, je dirais aussi que peut-être la France et les Pays-Bas se rassemblent aussi beaucoup, parce que ce sont deux pays qui ont une identité très forte culturelle. Je pense que c'était aussi Charles de Gaulle qui disait ça déjà, que il y a deux vraies nations au sein de l'Europe, c'est les Pays-Bas et la France. Et il a décrit les Néerlandais comme un peuple têtu, très près de leurs intérêts. Et c'est exactement ce que nous disons des Français aux Pays-Bas souvent.
C'est-à-dire que alors, est-ce que je peux aller jusqu'au bout de l'idée que vous avez développée? Est-ce que ça veut dire que les Néerlandais sont radins?
Oui, on peut dire ça, oui. Oui. C'est une généralité, mais oui.
Et Céline, c'est plutôt vécu comme une qualité qu'un défaut, Céline Lostis, le fait d'être radin.
Oui, effectivement, il faut être économe, on va dire.
Voilà, on n'emploiera pas le mot radin.
Il faut être économe, et c'est peut-être ce qui conduit souvent à un malentendu. On pense souvent que les Pays-Bas sont contre l'Europe, ou sont eurosceptiques. Pas forcément, en fait, puisque les Pays-Bas sont un pays quand même fondateur de l'Union européenne, ne sont pas forcément contre l'Europe, mais sont peut-être plutôt contre la politique européenne telle qu'elle est menée actuellement, notamment sur cet aspect parfois un peu trop dépensier. Et donc, les Pays-Bas sont peut-être plutôt pour une réforme structurelle de l'Union européenne, beaucoup plus stricte, en fait. C'est ce qu'ils ont essayé de faire quand on était président de l'Union européenne, il y a quelques années.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Ariane Kantewijk, que les Néerlandais sont pas forcément eurosceptiques, un peu moins europhiles, mais en tout cas, euro-interrogateurs sur le chemin que est en train de prendre de l'Union européenne.
C'est ça, oui. On se demande, on essaie de se protéger pour une ligne qu'on veut pas adapter en formant une équipe avec d'autres pays. Et en plus, si je peux dire, je réfléchissais, est-ce que c'est vrai que les Pays-Bas ont une culture forte comme la France? Moi, j'ai l'idée que la France, c'est un peu comme une île, un pays qui protège sa culture. Les Pays-Bas, c'est complètement ouverte. Surtout vers les pays anglo-saxons. La musique des États-Unis et de l'Angleterre entre en Europe par les Pays-Bas.
Margot Di Graffa, que ça veut dire qu'effectivement, c'est une grande différence. En France, effectivement, le domaine culturel n'est pas monétisable. La culture n'est pas une marchandise.
Non, je pense qu'en général, on pourrait dire que la culture joue un rôle beaucoup plus important en France qu'aux Pays-Bas. Mais d'autre part, comme on a déjà dit, on se vante pas beaucoup de ce qu'on a. Et en même temps, on est très fiers de notre culture. Et on a une culture, c'est sûr. Et dans le cadre plus large, on pourrait peut-être dire que la France et les Pays-Bas, dans le nouveau monde, disons, dans le monde de Trump et dans le monde qui change quand même énormément, on est forcé de se rapprocher d'une certaine manière. Et je pense que la culture prendra et est en train de prendre déjà un premier lead là-dedans.
Arrive Cordoy, un mot, est-ce que Donald Trump d'un côté, Vladimir Poutine de l'autre et éventuellement Recep Tayyip Erdogan vont aider tous les trois et quelques autres encore, on peut rajouter Xi Jinping, à ce que les Français et les Néerlandais finalement se comprennent un peu mieux?
Oui. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous que vous avez comme président Macron, parce que Macron, on peut comprendre comme néerlandais, un type comme Sarkozy ou Hollande, ça reste quand même des énigmes pour nous. Et Macron, ça c'est vraiment la politique européenne, on peut dire. Donc avec Macron, on peut entrer dans une sorte de relation proche.
On arrive un peu au terme de cette émission. Il y a un mot central qu'on emploie en néerlandais, qu'on n'a pas encore employé, qu'on n'a pas encore prononcé. C'est le mot Roseleur. Roseleur, je vois les sourires, Roseleur, autour de le sourire autour de tout le monde sourit autour de la table. Margot, qu'est-ce que c'est que ce fameux Roseleur qu'on écrit en français G-E-Z-E-2-L-I-I-G?
Oui, ça se prononce Roseleur.
Roseleur,
ça veut dire quelque chose comme se sentir bien ensemble. Hein, on se sent quelque part vraiment à l'aise, on est bien, on boit, on mange. C'est un peu à la française même, quoi.
Entre chaleureux, convivial, mais c'est toujours avec des autres. C'est toujours ensemble.
Ouais. Alors Céline, vous qui êtes la baie culturelle autour de cette table, c'est la même chose, c'est convivialité, c'est traduisible en français, Roseleur.
Non, c'est totalement intraduisible. Totalement. C'est vraiment ce qu'on a dit, c'est une situation, c'est quelque chose de chaleureux, confortable. Et effectivement, c'est aussi quelque chose de social, en fait. C'est être avec les gens, partager un bon moment avec quelqu'un, c'est Roseleur.
Et est-ce que c'est une façon de traduire, on est Roseleur, c'est une façon d'être hier, c'est le bonheur à la hollandaise, à la néerlandaise, Stamwitz?
Oui, je pense que c'est une façon de décrire ça, c'est très correct, oui.
Est-ce que le bonheur est une dimension néerlandaise dans les classements internationaux? Alors tout en haut, il y a toujours les Suédois, les Norvégiens, mais les Néerlandais sont jamais très très loin. Enfin, il y a toujours les Danois aussi, qui sont très bien placés, mais les Néerlandais sont jamais très très loin. 5e, 6e dans la position. On est heureux d'être néerlandais. Vous êtes heureux d'être néerlandais autour de cette table? Oui.
Absolument.
Alors, qu'est-ce qui rend les Néerlandais heureux? La prospérité, la liberté, ce sentiment d'être finalement très original dans un monde finalement relativement hostile que les Néerlandais ont su apprivoiser?
On est quand même très privilégié d'être né aux Pays-Bas. C'est un peu ça aussi. On se rend compte du bonheur. On a eu de la chance de naître ici, dans ce petit côté, dans ce petit volet de tout le monde, du monde entier. On se rend compte de ça.
Est-ce qu'on a le droit de ne pas être heureux aux Pays-Bas?
Ce matin, j'ai écrit une pièce dans mon quotidien sur Margrethe. Oui.
et je lui critiquais. Et j'ai eu beaucoup de mails de gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut quand même être content, parce que la reste du monde vous envie un premier ministre comme ça. » Donc je crois qu'en principe, oui, on est content et on est résolu, c'est ça.
Est-ce qu'on a fait une émission résolueur autour aujourd'hui, Margot?
Mais le fait d'être résolu, c'est plutôt sans les micros. Donc maintenant, après l'émission,
on va être vraiment résolueur. Bon, j'ai compris que vous étiez heureux que l'émission se termine. Merci en tout cas à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Merci aux équipes du Mauritius et de Hollande.com. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités et sur le Mauritius, bien sûr. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, tapez Carrefour de l'Europe RFI sur votre moteur de recherche ou chargez l'application RFI Pure Radio sur votre téléphone, sur votre smartphone. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à La Haye, Amsterdam, Rotterdam, ailleurs en Europe, c'est possible. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.